Bonjour, Éric Bodichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel.
Vermeer épiphanique, la ruelle. Bon, je ne vais pas m'étendre sur Proust, l'importance du peintre Vermeer dans la recherche du temps perdu, du processus complexe qui mène à l'écriture d'un livre avec un L majuscule comme chez Mallarmé n'est pas une découverte. On sait qu'à la toute fin, alors que la mort le guette, le narrateur décidera enfin d'écrire le livre 100 fois remis, 100 fois oublié, recouvert, aboutissant au même constat tragique fait par Mallarmé de l'impossibilité d'écrire l'œuvre totale, mais chez Proust, au terme de plusieurs milliers de pages. Notons simplement, pour nous affranchir des magnifiques pages qu'a écrit Proust sur Vermeer, que c'est Swann, Charles Swann, du côté de la judéité, opposé au côté catholique des Guermantes, grosso modo en bon freudien du côté de maman vers la mère, Vermeer et de papa, que c'est Swann qui, dans le roman, désire écrire, mais sans jamais y arriver, un livre sur le peintre Vermeer. Nous n'irons pas par quatre chemins afin d'entrer réellement dans l'œuvre du Sphinx de Delphes. Celui dont la peinture est là pour nous ouvrir à nos propres questions. Prenons l'expérience au pied de la lettre. Vermeer, ce grand V scintillant et versatile, malgré le peu de renseignements sur ce peintre effacé pendant deux siècles de l'histoire de l'art. Tenons-nous, une nouvelle fois, comme en 2012, lors d'un voyage à Amsterdam et une visite mémorable au Rijksmuseum, devant le petit tableau intitulé « La ruelle ». Le mot « tableau » est bien faible. Si dérisoire pour traduire ce surgissement du tableau, malgré sa petite taille, éclairée de l'intérieur, projection colorée et lumineuse, digne d'une lanterne magique, venant nous rencontrer, nous poussant à franchir cette sorte de fenêtre optique, barrière fragile et luxueuse, ouverte sur un autre monde, y associant la guirlande de mots attribuée par Baudelaire au dépaysement, au voyage intérieur, dans un pays donc de luxe, de calme et de volupté. Donc, ouvrons la porte. Le sol de la ruelle est formé de mystérieuses ondulations, dans mon souvenir jaune pâle, brun noisette et blanc cassé, éclairé par un ciel bleu roi. Ce ciel pur, obtenu par la poudre de lapis-lazuli, brille d'une luminosité interne, enfermée dans la boîte du tableau. Je marche. Enfin, mon œil se déplace à l'intérieur d'un espace entièrement dédié à la profondeur de champ. À l'opposé de Rembrandt, qui, nous l'avons vu, s'ingénue à rendre impropre l'usage des mots lointains et proches, nous gargarisons d'un reflet parfait, d'un monde entièrement clos sur lui-même. À l'image de ces petits paysages miniatures, reconstitués avec leurs maisons, leurs toits d'ardoise, leurs tuiles, sur lesquels tombe une neige éclatante et miroitée. La lumière réfractée sur les canaux, lumière d'or scintillant, si j'ose ondulatoire, moussue, effervescente, aspirine dans un verre d'eau. La différence avec Rembrandt et son clair-obscur, c'est que la vision personnelle du peintre, elle existe, mais comme effacée. Elle réside dans le choix de ce qu'il peint, comment il dispose ses éléments sur la toile. Par la méticulosité du rendu, le réalisme vertigineux de l'espace en trois dimensions, Vermeer devient un précurseur du procédé photographique. Il écrit et peint avec la lumière. Nous reviendrons un peu plus tard sur l'usage de ce que les Romains appelaient la caméra obscura. Elle est centrale, cette donnée purement technique. Pour comprendre l'impression de profondeur obtenue, ces effets de flaque, d'aura produits par la lumière, à la bordure des corps et des objets. La lumière est reine chez Vermeer. Plusieurs personnes vaquent à leur occupation. Des enfants, les seuls visibles dans toute l'œuvre, jouent à cache-cache sous un banc de pierre, de dos. Dans l'entremêlement des plans à la façon des poupées russes, une femme derrière le portillon vert, penchée au-dessus d'un seau, un balai posé contre le mur, ouvre un espace secret intime. Le travail des femmes à l'époque, grande prêtresse de ses intérieurs baignés de douceur, et lavait à grande eau. Sur sa tête, le joli bonnet blanc dont nous retrouvons la matière crayeuse recouvrant les briques à environ un tiers du mur. Une seconde femme, c'est l'été, le ciel nuageux annonce un orage peut-être, la montée des eaux dans le canal qui irrigue Delphes, baignée de silence, elle est en train de coudre un drap blanc du même blanc que le bonnet et la chauvive. Ce que René Char nomme le soleil des eaux dans une union des contraires. La diffraction dans le miroir liquide plonge les êtres et les choses, plus particulièrement cette belle maison de la ruelle, maison dont on cherchera longtemps la trace, mais qui n'est peut-être que l'image poétique et suave d'une rue rêvée dans un bain lustral dont les alchimistes se servent afin de réinsuffler l'esprit dans la matière, la rendre glorieuse. En m'approchant de la maison, je remarque plusieurs choses. Les briques sont recouvertes d'un badigeon blanc, comme il était d'usage afin d'assainir les murs, les protéger de l'humidité. Prodige ! Ce qui est recouvert, à savoir les briques, n'a pas disparu. On peut percevoir sous les couches de blanc d'un lacté pur, comme la persistance des briques sous ce blanc, parce que ce badigeon recouvre réellement les briques toujours en dessous. En se déplaçant à gauche, la rue continue. Tout l'art du tableau réside dans le choix savant du cadrage, procédé de coupure de l'espace que reprendra le grand peintre naïf René Rimbert. Ainsi, à gauche, une autre maison nous fait signe. « Bah, dit-elle, ne crois pas que je m'arrête là où la toile se termine. » L'autre partie, celle qu'on ne voit pas, ouvre la possibilité d'un ailleurs contenu dans ce cachet. Dernière chose, sur un bandeau recouvert par la chaux en dessous d'une fenêtre, le peintre assignait modestement la vue. Je suis entré à l'intérieur de la bâtisse. Des enfants courent dans tous les sens. À la cuisine, on prépare le repas du midi. Une fumée grasse s'échappe des casseroles. Un chapon rissole sur une grille dans la cheminée. C'est dans une pièce d'apparat qui donne sur la rue qu'a lieu l'étrange cérémonie. Le peintre se tient devant la table. Sur celle-ci est posée la caméra obscura. C'est un instrument d'optique qui permet d'obtenir une projection de la lumière passant par un trou sur une surface. On obtient ainsi une vue en deux dimensions, très proche de la vision humaine. La petite taille des tableaux chez Vermeer s'explique alors par l'utilisation de ce procédé, et les dimensions forcément limitées de l'écran limitent à son tour les dimensions de la toile. Cela éclaire aussi l'impression de réalité éprouvée lorsqu'on découvre un tableau comme celui de la ruelle. C'est le tableau d'un tableau reflété par un écran. Dans la petite pièce d'apparat qui donne sur la rue, où les deux enfants continuent à s'amuser, je vois le peintre quitter son appareil, venir agencer les éléments qu'on retrouve dans d'autres tableaux composant un alphabet mystérieux. Le tapis touffu, versicolore, digne des mille et une nuits, le joli vase bleu céladon, la fameuse chaise à tête de lion, la carte du monde qui voyage elle aussi de tableau en tableau, tous trouvent leur accomplissement, leur densité, dans une mise en scène renouvelée. Autre écrivain que Proust est lié à Vermeer, nous dit Philippe Lançon dans son excellent article paru dans le Libération du 25 février dernier. Non parce que son écriture fait écho à son œuvre, mais parce qu'il en parle formidablement bien. C'est Paul Claudel. Ce qui me fascine, dit Claudel, c'est ce regard pur, dépouillé, stérilisé, rincé de toute matière, d'une candeur en quelque sorte mathématique ou angélique, ou disons simplement photographique. Mais quelle photographie ! En qui ce peintre, reclus à l'intérieur de sa lentille, capte le monde extérieur. On ne peut comparer le résultat qu'aux délicates merveilles de la chambre noire et aux premières apparitions sur la plaque du daguerréotype de ces figures dessinées par un crayon plus sûr et plus aéré que celui de Holbein, je veux dire le rayon du soleil. Soleil, éblouissement. C'est dans la Gazette des Beaux-Arts du 1er juillet 1866 que le célèbre critique d'art Théophile Thoré-Burger fit sortir de l'obscure nuit où elle était plongée l'œuvre de Vermeer et plus précisément la fameuse vue de Delphes. Au musée de La Haye, commence Thoré-Burger dans un article qui fit date, un paysage superbe et très singulier arrête tous les visiteurs et impressionne vivement les artistes et les raffinés en peinture. C'est une vue de ville, avec un quai, une vieille porte en arcade, une bande de terrain et plusieurs figurines. Le ciel gris argenté et le ton de l'eau rappellent un peu Philippe Conique. Proust, dans La Prisonnière, fait-il un clin d'œil appuyé à Thoré-Burger et à l'acte fondateur de cette redécouverte? Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delphes de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise d'une beauté qui se suffisait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre sorties et entra à l'exposition. Enfin, continue le narrateur, redoublant l'extase ressentie par Théophile Thoré-Burger devant cette toile, Bergotte fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. C'est un tout petit détail, un pan petit d'un mur perdu dans la vue totale d'une ville qui donne à Bergotte et à Proust l'illumination, ce qu'on appelle précisément une épiphanie. Quelque chose du visible, du mana, du voile qui recouvre le monde se déchire Comme dans la scène du Christ crucifié lorsqu'il meurt, le ciel, dit-on, se coupe en deux. Je ne devais pas parler de Proust. C'était un vœu pieux. Il revient et contredit tout ce que j'avais annoncé. Cela porte un nom, c'est une palinodie. Eh bien, je vous laisse, chers auditeurs, continuer à rêver très longtemps autour de Vermeer et d'un art entièrement consacré au secret. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à Vuillard, Édouard Vuillard, et les magnifiques panneaux constituant l'ensemble des jardins publics. Merci à Simon à la technique, et donc au mois prochain.